Ne vous inquiétez de... J'ai plus besoin de prêcher, vous savez tout. Ésaïe 8, je reprends la parole d'introduction de la dernière fois. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Je prendrai juste cet extrait du verset 12, Ésaïe 8, 12. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Nous avons dit la dernière fois que finalement, le sujet de la peur et de la crainte est quelque chose qui nous touche tous. Nous sommes tous dans un monde où Jésus l'a dit clairement que vers la fin des temps, il y a un crescendo, il y a une croissance de l'angoisse des nations. Et cette angoisse des nations peut affecter le peuple chrétien, peut toucher les chrétiens, parce que l'avenir du monde est lié, en tout cas au niveau matériel, est lié aussi à notre avenir. Nous sommes en route vers un avenir commun au niveau terrestre, mais notre avenir céleste est tout différent. Nous avons un avenir céleste, les meilleurs qui soient, le plus beau qui soit. Si vous rêvez de quelque chose de magnifique, de merveilleux, ce sera encore plus beau que ça. Tellement le ciel et tout ce que Jésus réserve pour ses bien-aimés, pour ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent, ceux qui l'accueillent, ceux qui veulent de lui, ceux qui le suivent, le servent, ce sera... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui nous attend. D'ailleurs, tous ceux qui ont voulu décrire le ciel n'arrivent pas à le décrire. L'apôtre Paul dit, « J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui ne me sont pas permis de dire avec des mots humains. Son vocabulaire est trop court, trop faible pour décrire ce qu'il a vu et reçu à ce moment-là. Cependant, nous pouvons être envahis de crainte face à l'avenir, l'économie, la société en changement, les valeurs de la société qui changent, les valeurs chrétiennes qui sont menacées. Ça fait peur à beaucoup de chrétiens lorsqu'on voit que les valeurs qui ont toujours existé et qui sont chères à nos cœurs et qui sont bibliques, qui sont fortes, qui sont le fondement de la société, sont maintenant poussées de côté. On va devenir une espèce rare, frères et sœurs. Et en voie de disparition, j'allais dire, mais non, quand même pas. Et c'est au milieu de ce monde qui fait pression sur les gens qui tiennent et qui maintiennent haut les valeurs bibliques, eh bien, cette pression peut faire peur. La violence peut faire peur. La violence, elle n'a plus de frontières, ce n'est plus... Elle est partout, répandue dans tous les groupes, et partout, elle peut arriver. Il y a des peurs, bien sûr, les peurs qui sont légitimes. Par exemple, on peut avoir peur pour l'avenir de nos enfants, de ce qui se passe avec eux. On peut avoir peur d'un accident, d'une maladie, d'un diagnostic médical, peur de la vieillesse, peur de la solitude. Peur que ceci ou cela arrive dans ma famille, dans mon travail ou dans l'église. Il y a toutes sortes de craintes, la peur de l'échec, d'échouer, de ne pas y arriver, la peur de refaire confiance. Combien de personnes n'osent plus faire confiance parce qu'ils ont été déçus, ils ont été blessés, et ils n'osent plus refaire confiance. La peur d'être rejeté, critiqué, la peur de l'opinion des autres. Ne crains pas, ne crains pas. Cette parole est dans la bouche des prophètes. Elle est dans la bouche de Jésus. Elle est dans la bouche des apôtres. Elle est dans la bouche des anges même. Ne craignez pas. C'est un commandement. Ne crains pas, c'est un commandement. Un des commandements les plus répétés dans l'Écriture. Cela montre que la peur peut avoir tellement de visages que nous sommes tous concernés tôt ou tard par la crainte. Lorsque Dieu dit « ne crains pas », il donne toujours son aide. « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ou bien « ne crains pas, je suis là pour te délivrer. » « Ne crains pas, je suis tous les jours avec vous. » Le Seigneur donne cet ordre, mais il donne aussi son aide. Il nous promet toujours son aide parfaite. Et la parole de Dieu est là pour nous rassurer, car notre tendance naturelle, face à la peur, c'est de la fuir, c'est de l'esquiver. On essaie de fuir ce qui fait peur. On a peur de telle ou telle personne, on essaie de la contourner, de la fuir, de l'éviter. On a peur de l'avion, je ne sais pas si quelqu'un a ce problème à traiter, Vous cherchez un autre moyen de déplacement. Au lieu de faire 4 heures d'avion, vous allez faire 40 heures de train ou de voiture ou de vélo, je ne sais pas. Voilà, vous essayez d'éviter la peur. Là, on a la peur de ce qui nous menace et on fuit ces peurs en investissant dans la sécurité, en s'agrippant pleinement aux sécurités. Or, la meilleure manière d'exorciser les peurs, c'est de les confronter. Vous avez peur d'un examen, vous êtes obligé de le passer quand même. On est obligé de passer par là. On doit affronter nos peurs. Et en les assumant clairement, sans reculer, même en tremblant, même en transpirant, même en étant paniqué, c'est là que l'on grandit. C'est là que l'on grandit. Et notre confiance augmente. Le Seigneur aimerait encourager nos natures craintives et il ne les juge pas. Il ne les juge pas. Il dit à personne, oh, que tu es vraiment un trouillard, que tu es vraiment un peureux, que tu es vraiment une petite nature. Non, il encourage toujours celui qui craint et qui a peur. Il encourage toujours, il le rejoint. Nous pensons à Josué qui n'avait pas le choix finalement dans son appel, il devait succéder à Moïse et porter la suite du peuple dans la direction de ce peuple et Dieu ne le méprise pas dans sa jeunesse, dans son inexpérience, mais l'encourage. Le Seigneur va même descendre jusqu'à Gédéon qui est caché dans une fosse pour lui dire, quand Gédéon dit « je suis le moindre, je suis le plus petit, je suis rien du tout », je suis avec toi, vaillant héros. Le Seigneur encourage. David, Salomon, tous ont eu besoin de cette exhortation, ne crains pas, et aussi de l'encouragement du Seigneur. Beaucoup de paroles personnelles sont données dans l'Écriture parce que ne crains pas revient plus de 360 fois, nous l'avons déjà dit, une fois par jour si vous voulez. On a besoin d'entendre ça dans notre cœur. Mais il y a beaucoup de paroles personnelles dans l'Écriture où un prophète, un ange ou un apôtre dit cette parole à quelqu'un de manière spécifique. Et je voudrais que ce matin, le Saint-Esprit se tienne devant vous et vous dise en face et l'inscrive sur votre cœur, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, fais confiance, car je n'ai pas besoin de vous dire la conclusion, elle est déjà connue pour surmonter nos craintes et nos peurs. » Il nous faut apprendre à faire confiance, à rester confiant, à demeurer dans une confiance totale dans la présence, dans la nature, dans le nom du Seigneur. Faire confiance, c'est un apprentissage de vie. Et si nous sommes en contact avec la parole de Dieu, si nous sommes en contact avec lui dans la prière, si nous vivons dans l'obéissance, nous allons grandir dans la confiance. Et nos craintes vont nous intimider. Elles vont toujours nous intimider tôt ou tard. Mais elles ne vont pas nous vaincre. Nous pourrons les confronter, nous pourrons les vaincre, nous. Nous pourrons les affronter, nous pourrons les surpasser, nous pourrons les dépasser par la confiance dans le Seigneur. Parfois, la fuite est impossible. Et comme je l'ai dit, on apprend en confrontant nos craintes et nos peurs. Car elles peuvent, effectivement, les craintes les plus difficiles parfois, c'est celles qui arrivent à l'improviste, celles qui arrivent sans crier gare. Vous n'êtes pas préparé du tout et d'un instant à l'autre, vous êtes propulsé dans un endroit de crainte terrible. Et par une mauvaise nouvelle, un diagnostic, une perte soudaine de quelque chose de précieux ou d'un être cher, d'un retournement de situation, on a parlé du psaume 56, où David, qui n'avait ni peur du lion, ni de l'ours, ni de Goliath, est dans un environnement de crainte terrible lorsqu'il est vers Abimélec, dans le pays des Philistins. Et la première phrase qu'il dit dans sa prière du psaume 56, « Ô Dieu, fais-moi grâce !» Si vous ne savez plus comment prier, priez comme ça. « Seigneur, fais-moi grâce !» Et puis ensuite, il dit encore au verset suivant, verset 4, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Je me confie en Dieu. C'est là la clé que David va se dire. Il va le dire aussi dans les psaumes, dans d'autres psaumes, psaume 27 en particulier, qui est un psaume particulièrement précieux, où il dit carrément, Si une armée campait contre moi, je n'aurais même pas peur. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il prend la situation extrême, mais David est tellement habité par la confiance à ce moment-là, il est tellement imprégné, tellement sûr que rien ne peut lui arriver vraiment que Dieu n'ait autorisé et que Dieu tient toutes choses sous son contrôle définitivement, qu'il proclame cette confiance totale. Frères et sœurs, Dieu amène toutes choses bien en son temps. En son temps, toute chose arrive à bien pour l'enfant de Dieu, car le Seigneur contrôle toute chose. Il porte en lui cette certitude que le Dieu souverain ne perd jamais le contrôle d'aucune situation. Et en toute chose, il est mon Dieu et mon Seigneur en qui je me confie. Je dépose ma vie entre ses mains et je sais que c'est en pleine sécurité que je suis. Je suis dans la totale confiance que rien ne peut surpasser cela. Et David va le dire dans 1 Chronique 29, 11, tu peux le mettre à l'écran. 1 Chronique 29, 11, « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, d'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. » Et puis cette phrase extraordinaire, « Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble ?« Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Dieu est au-dessus de tout. De tout. Et si je le crois, et David, il avait non seulement cette foi, mais il le proclamait face à ses craintes, face à ses menaces. Il était peut-être tout seul, mais il proclamait face à son âme craintive, son âme qui tremblait, il proclame face à lui-même et face à l'adversaire, parce que derrière la crainte, il y a l'esprit de crainte. Le diable cherche par la peur à nous paralyser, à paralyser notre foi. Et derrière nos craintes peut se tenir la puissance de la crainte qui essaye de paralyser notre marche chrétienne. David proclame donc, « Au nom de l'Éternel à qui j'appartiens, je te chasse. Au nom de l'Éternel à qui j'appartiens, je fais fuir cet adversaire et je fais face à mes peurs et je suis rempli de confiance. » Et en proclamant cette parole, voyez-vous, je crois que c'est important de réaliser que nos réalités humaines, elles sont quelque part ici. Mais nous devons, par la foi, nous placer au-dessus. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus de ces réalités terrestres. La foi se place au-dessus. La foi empoigne la vérité biblique. Elle se place au-dessus. Au-dessus. Et souvent, nos craintes sont au-dessus de notre foi. Et nous sommes dans la défaite, dans la tristesse. Nous n'avançons pas. Nous avons ces paniques intérieures et nous crions partout, nous nous agitons pour savoir qui pourrait nous aider éventuellement parce que notre foi est en dessous de nos craintes. Or, il faut que l'inverse se passe, que notre foi en la vérité biblique, notre foi dans le Seigneur, notre confiance en lui doit être au-dessus de nos réalités qui nous inspirent la crainte. Est-ce que nous comprenons ça ce matin? Nous devons nous placer, la vérité se place au-dessus des réalités. La vérité et la puissance de la parole de Dieu doivent se placer au-dessus. Et quand je la proclame comme David le fait constamment, eh bien, nous pouvons rester dans la paix intérieure. Jaïrus était devant cette situation impossible, il ne pouvait pas échapper. On lui annonce la mort de sa fille. Et Jésus est tout près, heureusement. Et il entend cette parole lorsque Jésus se tourne vers lui. « Ne crains pas, crois seulement. Place la foi en moi au-dessus de cette réalité, la plus dure qui soit, la mort de ta fille, eh bien, place la vérité biblique au-dessus. » Frères et sœurs, seule la foi vivante peut faire cela. Seule la foi en Jésus, que le Saint-Esprit te communique. C'est la foi, c'est un don de Dieu. Il faut le demander, il faut le recevoir. Recevez cette foi ce matin pour que votre foi se place au-dessus de vos impossibilités et des tragédies les plus horribles. La foi du Seigneur chasse et brise le pouvoir de la crainte, l'angoisse de la crainte et peut-être aussi le malheur et le découragement que peut engendrer ce genre de crainte. Le remède à la peur, c'est vraiment totalement s'abandonner entre ses mains. Je place la vérité biblique au-dessus de mes ressentis de crainte. Bien sûr, je ne peux pas que faire que cela. Je peux me promener en ville en disant « Je n'ai pas peur de me faire renverser par une voiture, je n'ai pas peur », et puis vous traversez tous les feux rouges, vous êtes quand même en danger, n'est-ce pas? Il faut aussi respecter les lois et obéir en même temps aux commandements du Seigneur. Enfin, proclamer simplement faire que ça. Il faut aussi vivre une vie d'obéissance. Et j'aimerais que les choses soient en équilibre. La proclamation de la vérité qui fait reculer l'esprit de crainte, mais en même temps l'obéissance au Seigneur qui nous maintient dans sa bénédiction, qui nous maintient dans son approbation. Nous avons parlé que l'origine de la crainte remonte à Genèse chapitre 3, lorsque Adam, le premier couple humain, était dans cette parfaite harmonie avec le Seigneur. Ils étaient enveloppés de ce vêtement de gloire, ils étaient dans le bonheur total, dans une communion limpide et transparente avec Dieu. Et tout à coup, s'amène ce serpent qui met tout en doute. Et lorsque Adam choisit d'écouter le message du serpent, il y a une fissure dans la relation, il y a une fissure de la communion, il y a quelque chose qui est abîmé dans la communion parfaite. Vous savez, il faut parfois peu de choses pour que la communion avec Dieu ait une petite fissure, une petite fracture, un petit quelque chose qui nous montre que c'est ça la sensibilité au Saint-Esprit. Il faut restaurer cela. Et au lieu de restaurer la relation avec Dieu en venant vers lui en disant « Mais Seigneur, j'ai écouté ce mauvais message, je reviens maintenant, Seigneur, je te demande pardon », il a fui. La crainte fait fuir. Il a fui, il s'est senti misérable, faible, il a perdu son statut de fils de Dieu qui avait autorité, il a perdu ce statut d'autorité, et ainsi la crainte est arrivée dans son cœur. « J'ai eu peur et je me suis caché », va-t-il dire. Donc, la solution à la crainte, c'est la restauration de la confiance, de la communion avec Dieu. Parce que notre communion avec Dieu est elle solide, lorsqu'elle est préservée, lorsque nous la chérissons plus que tout le reste, alors notre confiance a un fondement solide. Alléluia. Je voudrais parler juste de deux craintes qui peuvent nous toucher et qui peuvent être un problème pour le chrétien aussi, car théoriquement, nous devrions être libres de toute crainte. Et lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous sommes à lui, lorsque nous découvrons Jésus, je me souviens, on n'a peur de rien, on n'a peur de personne, on est tellement dans la sécurité, dans la main de Dieu, que toutes les craintes sont parties, parce que nous avons la paix avec Dieu, nous avons la joie du salut, nous avons un sens à notre vie, nous avons un amour qui nous fait déborder pour les gens, etc. Nous avons vraiment cette assurance que Dieu va s'occuper de tout, on est complètement naïf et ça marche. Ça marchait pour vous? C'est ça? La conversion, c'est ça, c'est cette crainte qui n'est pas à l'ordre du jour, non. Même la crainte de la mort, plus de problème, plus de problème. Il m'arrive n'importe quoi, je sais où je vais. Ça, c'est le langage du jeune chrétien né de nouveau. Mais Jésus savait aussi que nous pouvions quand même être touchés par d'autres craintes qui peuvent sournoisement venir. Et regardons ensemble dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6 de Matthieu. Et même si nous savons que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, Jésus nous a parlé des craintes qui peuvent nous toucher et qui s'appellent la peur de manquer de quelque chose. Et dans le verset 24 au verset 34, dans les 10 versets qui sont là, Jésus va relever 4 fois le mot inquiétude. Et Jésus va dire, mais il dit quelque part comme ça, honnêtement, je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous peur de manquer? Ne connaissez-vous pas le Dieu qui pourvoit? Ne connaissez-vous pas mon Père céleste? Ne connaissez-vous pas le bon berger qui dit, je suis le berger qui pourvoit tes besoins? Ne connaissez-vous pas mon nom qui dit, je suis Jéhovah Jiré, je pourvois tes besoins? Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous mangerez, de ce que vous serez habillé et de ce que votre avenir, de quoi votre avenir sera fait. C'est comme si Jésus disait, je ne comprends pas, mais Jésus ne juge pas. Il vient toujours nous aider. Il vient toujours nous aider. Et à 4 reprises, donc, Jésus va parler de la peur du manque. Par exemple, il est dit au verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que beaucoup d'entre eux ?» Ça, c'est la première chose qu'il dit. Ensuite, au verset 28, il est dit, « Ne vous inquiétez, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Et ensuite, il dit, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et au verset 31, il dit encore, « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Ce sont les païens qui cherchent tout cela, or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Verset 34, pour la quatrième fois, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Le Seigneur voudrait rappeler, et le fait qu'il le fait quatre fois, signifie que quand même, tout chrétien bouillant que nous sommes, ancré dans le Seigneur que nous sommes, nous avons cette tendance à nous inquiéter des choses matérielles, du manque des choses matérielles. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ça ici, en Suisse, où nous avons quand même encore du pain sur notre table, je pense, même le plus pauvre parmi nous a encore de quoi manger. J'ai rencontré un mendiant cette semaine et, bon, j'ai fait toutes sortes d'expériences avec ça. Alors, je vous dis tout de suite que tantôt on dit ceci, tantôt on dit cela, et certains sont honnêtes, beaucoup sont dans des réseaux, etc. On connaît tout ça. Mais je lui dis, mais écoute, ok, je veux te donner un sandwich, alors voilà, je lui offre un sandwich. Mais quand j'étais avec lui devant le bar du sandwich, il ne voulait pas accepter le sandwich que je lui proposais. Hein. Il voulait plus que cela encore. Alors, je veux celui-là. Bon, ben voilà. Donc, il était relativement exigeant, mais suite à cela, je lui dis, mais écoute, tu peux manger à quatre endroits différents gratuitement à Genève. Au moins quatre que je connais et qui donnent à manger en permanence. Nous sommes des nantis à Genève. Amen. Nous sommes des nantis. On pourvoit nos besoins. Nous ne devons jamais oublier, frères et sœurs, que nous vivons dans un monde où 900 millions de personnes ne mangent pas leur faim. Environ 900 millions. Et ce chiffre grandit toujours. Et nous ne pouvons pas simplement dire « ça ne nous concerne pas ». De toute façon, je ne peux pas envoyer un colis de nourriture par courrier pour donner à manger ça. On ne peut pas changer grand-chose. Cependant, nous ne devons pas être indifférents face à ce constat. Et je dirais tout ce que l'Église peut faire au niveau social, connecté avec l'Évangile et l'évangélisation, nous voulons le faire. Nous ne voulons pas simplement fermer nos yeux sur ce constat et dire, ben voilà, on s'occupe de nous et de nos programmes. Nous voulons avoir des mains, des bras, une compassion vers les gens qui n'ont rien. Est-ce que je pourrais entendre aussi peut-être « Amen » ? C'est notre vision, frères et sœurs. Nous ne voulons pas ignorer cela. Si ton frère a faim, donne-lui à manger. C'est un commandement également. Nous devons faire quelque chose, apporter un savoir-faire, une sagesse, un équipement, un outil pour qu'eux puissent se nourrir. Je ne sais pas. Nous ne devons pas être indifférents à ces choses. Ça, je voudrais juste le dire. Revenons à nos inquiétudes maintenant. Jésus dit clairement à quatre reprises, « Votre Père aimerait t'apprendre dans ta marche avec lui » que tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Pourquoi ? Premièrement, parce que ta vie est extrêmement précieuse. Dieu veut te rappeler que tu vaux plus que des petits oiseaux qui ont quand même à manger quelque part, qui trouvent quelque chose. Peut-être qu'elles ont aussi des moments de vaches maigres, je ne sais pas, mais ils trouvent toujours quelque chose. Vous valez beaucoup plus qu'eux. Ta valeur pour Dieu est magnifique, elle est grande, elle est extraordinaire. Tu as une valeur pour Dieu, c'est pourquoi il va penser à toi. Il ne t'oublie pas. Ensuite, il nous est dit, votre Père, pourquoi vous inquiétez-vous du vêtement, etc. Il pourvoira, vous êtes des gens de peu de foi. Placez votre confiance dans la puissance dans la providence du Seigneur. Faites-lui confiance. Il ne vous oublie, il ne peut vous oublier. Il vous a gravé dans ses mains. Il est mort à la croix parce qu'il a pensé à chacun de nous. Il ne peut pas nous oublier. Il intercède pour nous. Il prononce notre nom avec amour, maintenant même dans le ciel. Alléluia. Souviens-toi que le Seigneur est fidèle. Pourquoi t'inquiéter de ce que nous mangerons? Votre Père sait que vous en avez besoin. Le Seigneur prend note de tes besoins. Il n'est pas indifférent. Et si tu dis, Seigneur, pourquoi ce n'est pas encore arrivé la solution? Pourquoi je dois tarder? Pourquoi je ne trouve pas de solution? Fais confiance, tu passes un test, tu passes une école, tu passes quelque chose d'important. C'est important que ta foi, elle grandisse, qu'elle tienne, qu'elle ait des racines, qu'elle ait un fondement. Alors ne crie pas tout de suite, ça ne marche pas. Le Seigneur te teste parce que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Elle aura, lorsque Jésus apparaîtra, honneur et gloire. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 4 et suivants. Souviens-toi que ton Père a pris note de tes besoins, et puis ensuite, souviens-toi, le dernier verset, le lendemain s'inquiétera de lui-même. Nous sommes tous faits pour porter la charge d'une seule journée. D'une seule journée. Tu es fait, le plus faible comme le plus fort parmi nous, tu es fait pour porter la charge d'une seule journée. Et si nous respectons ce commandement en disant, Seigneur, demain est un autre jour, je dépose mes soucis devant toi et je ne vais pas les récupérer demain matin en réveillant, je vais te faire confiance que tu vas me donner la force pour demain. Même si les défis sont tendus, difficiles, et que des charges et des responsabilités sont lourdes, vis un jour à la fois, mon frère, ma sœur. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Et avec ça, tu auras bientôt beaucoup de témoignages à raconter. Car les gens vont s'étonner, mais comment ça se fait que lui, il vit avec peu. Et il a une famille. Et nous, on a plus. Mais lui, il a la joie, il a la paix, et nous, on est tout le temps tracassés pour quelque chose. On se plaint, on n'est pas content, et eux, ils sont chrétiens, ils ont moins, ils sont contents, ils se plaignent pas. Votre témoignage parle. Par contre, si vous vous plaignez comme les autres, si vous craignez ce que eux craignent, on verra jamais de différence. Vous avez beau prêcher l'Évangile, les gens disent, mais de toute façon, ils sont comme les autres. Ils font comme les autres, ils sont pas, c'est pas différent, je vois aucune différence. Tandis que votre vie de contentement, de marche confiante avec le Seigneur, vous permettra de dire un jour que Dieu est votre providence. Il pourvoit toujours. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, ils n'avaient rien, ils sont revenus. Première question qu'il leur pose, avez-vous manqué de quelque chose? Leur réponse, rien, de rien. Bien sûr que nous pouvons dire, mais il me manque ça, ça et ça. Apprenons à vivre dans le contentement. Dans notre société de consommation, c'est aussi une chose difficile à vivre. Le contentement quand les autres ont, que vous n'avez pas. La Bible dit aussi là, ne te compare pas, ne t'irrite pas sur les autres. Ne t'irrite pas. Vis le contentement. Ton Père qui prend soin des petits oiseaux, il ne t'oublie pas, il ne peut pas t'oublier. Tu as de la valeur pour lui. Il pense à toi tout le temps. Arrête de te plaindre, de gémir et de douter de sa présence. La deuxième et dernière chose que je voudrais dire ce matin, Jésus donc aborde la peur de manquer et maintenant il va aussi nous donner une parole pour une autre crainte qui nous touche tous, c'est la crainte de la souffrance. La première épître de Pierre parle aux chrétiens dispersés dans l'Asie mineure de l'époque et ça aborde le thème de la souffrance et il nous dit entre autres que nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Éviter la souffrance, c'est quasi une impossibilité. Nous devons nous armer de la pensée de souffrir et elle nous affectera dans beaucoup de domaines car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus a connu la souffrance, l'apôtre Paul aussi, Pierre aussi et d'autres aussi. Alors que Jésus ne comprend pas pourquoi on s'inquiète pour les choses qui pourraient nous manquer, j'aimerais dire que Jésus comprend votre crainte de la souffrance, pleinement. Parce qu'à Gethsémané, il nous est dit que lorsque Jésus était dans ce jardin, dans la prière, et que l'horreur de la croix venait tellement près de lui, La Bible dit qu'il a été complètement angoissé. Il a été effrayé au point qu'il agonisait. Il était tellement dans une souffrance et dans la crainte, tout en sachant que son père était là, mais la crainte de la souffrance et de l'horreur de la souffrance qu'il pouvait mesurer à ce moment-là était tellement près de lui qu'il a sué du sang. Jésus peut comprendre ta peur de la souffrance, quelle qu'elle soit. La souffrance n'est pas quantifiable. La souffrance de l'un est ça, l'autre est ça. Mais on ne peut pas les comparer parce qu'elle est individuelle. On ne peut pas comparer cela. Ne dites jamais à quelqu'un, mais ça c'est rien ce que tu vis, ne te plains pas, c'est rien. Sa souffrance, c'est sa souffrance, elle n'est pas comparable à la nôtre. C'est tout différent, c'est individuel. Ce que j'aime dans ce texte de Gethsémané, c'est que c'est la réponse de Dieu le Père. Dieu le Père est venu simplement le fortifier par un ange, juste à ce moment-là. Le Seigneur vient te fortifier quand tu as peur de souffrir. Et quand tu vis la souffrance, il y a des gens ici, je pense aussi, qui vivent des souffrances permanentes, qui ont mal dans quelque part en permanence. Ils se lèvent avec le mal, ils se couchent avec le mal. Je visitais une personne âgée qui me disait, « Mon arthrose est fidèle, mon arthrose est fidèle. » Nous vivons avec des souffrances qui peut-être sont omniprésentes. Et j'aimerais simplement dire quelques versets pour vous encourager. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 12. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit que avec l'épreuve, Dieu donne le moyen d'en sortir. 2 Corinthiens 4, 17, nos légères afflictions. Vous allez dire, mais Seigneur, ce n'est pas léger ce que je vis. Pourtant, l'apôtre Paul dit, nos légères afflictions du moment présent produisent en nous et pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et Jésus, lorsqu'il était à la croix, après avoir vécu cette horreur de Gethsémané et en subissant cette torture que nous n'osons même pas décrire tellement que ça nous fait froid dans le dos, il est dit dans Hébreux 12 ceci, que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Quelque part dans la souffrance, Jésus a soulevé son regard intérieur au-dessus de cela, comme je disais tout à l'heure, les réalités qui font peur, je me place au-dessus pour les vaincre. Je ne veux pas être en dessous de ma foi. Ma confiance et ma vision des choses est au-dessus des réalités, même qui me font souffrir. Jésus a vu au-delà de la croix, il a vu des gens qui venaient, qui le suivraient. Des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de personnes qui vont le suivre, qui vont être le résultat, le fruit de sa mort à la croix. Alléluia. Jésus a vu la bénédiction, il a vu la gloire, il a vu le résultat de sa souffrance, il a vu le fruit de ses souffrances, comme dit Ésaïe 53. Et il a vu, comme dit le texte, il a vu, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. La souffrance peut nous décourager. La souffrance peut nous abattre quand elle est longue et qu'elle ne change pas. J'aimerais demander ce matin que le Seigneur vienne vous fortifier personnellement. S'il a envoyé un ange pour fortifier Jésus juste à ce moment-là, il peut vous donner une force nouvelle aujourd'hui dans votre souffrance. Placez votre regard au-dessus des souffrances. Jésus la comprend parfaitement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je termine ce message maintenant. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'apôtre Paul va dire, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et, Philippiens 4, la paix de Dieu, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Et je prie que ce matin, la paix de Dieu, par la confiance en lui, garde votre cœur, monte la garde autour de votre cœur, autour de votre personne et autour de votre pensée. La paix de Dieu puisse vous garder de toute inquiétude, de toute infiltration de l'inquiétude, de toute flèche d'angoisse qui pourrait nous atteindre. Alléluia. Père Céleste, je te remercie ce matin de ce que tu comprends toute personne, Seigneur, qui est inquiète et qui est peut-être dans la peur ou dans l'inquiétude ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole nous donne la foi, elle augmente notre confiance, elle nous rappelle, Seigneur, tant de promesses qui nous sont données comme héritage pour faire face à nos craintes et nos inquiétudes. Et nous voulons placer toutes tes promesses au-dessus de nos inquiétudes, Seigneur. Elles peuvent être multiples, elles peuvent être personnelles, familiales, elles peuvent être sociales, elles peuvent être intérieures, elles peuvent être, Seigneur, simplement des liens d'angoisse peut-être. Au nom de Jésus, je proclame que ce matin, l'Éternel délivre de toutes mes angoisses. Et je brise au nom de Jésus tous les liens d'inquiétude et de crainte que l'ennemi a mis autour de votre vie. Au nom de Jésus, que ces choses soient vraiment sectionnées ce matin, enlevées, brisées ce matin, que toutes ces inquiétudes posées par l'ennemi et qu'il a essayé de nous mettre comme un filet autour de nous pour nous paralyser, eh bien au nom de Jésus, nous déchirons ce filet au nom de Jésus et nous disons Seigneur merci de venir fortifier le cœur de chacun, de fortifier la foi de chacun, de redonner confiance car tu es Jéhovah Jireh, je pourvois, tu es l'éternel Adonai, le Tout-Puissant, Seigneur tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui pourvoit Seigneur, tu es celui qui est avec nous par ta présence, tu es Emmanuel, nous te remercions Seigneur Jésus. Merci pour la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Que le nom de Jésus soit béni, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Si ce matin, quelqu'un désire Seigneur, dire, Seigneur, je tends ma main vers toi. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, qu'aujourd'hui, les inquiétudes continuent à m'accabler. Seigneur, je prends une position et je vais la maintenir en rentrant à la maison tout à l'heure. Je vais partir, Seigneur, avec cette assurance tranquille que, Seigneur, cette paix va me garder. Et je cesse de me plaindre, je cesse de me comparer et je cesse de m'agiter aussi, Seigneur. Et je reste confiant car toutes choses vont être amenées à bien par mon Dieu en son temps. Si quelqu'un a besoin de cette prise de position, levez votre main simplement là où vous êtes. Seigneur, je prends position face à mes inquiétudes, à mes angoisses et mes craintes, au nom de Jésus. Je les mets sous mes pieds et je les mets également sous la foi, car la foi me dit « ne t'inquiète de rien ». Tu ne t'inquiéteras de rien, ne sois pas effrayé. Au nom de Jésus, je le proclame à mon âme, je le proclame face à l'adversaire, je le proclame devant le Seigneur dans la foi, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut encore lever sa main ce matin pour dire « Seigneur, je dépose mes craintes » et je veux laisser aucune emprise à la crainte dans ma vie, qu'elle me paralyse plus au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ces frères et sœurs ce matin, qui spécialement, Seigneur, prennent une position. Tu vas leur rappeler ça, Seigneur, dans la journée, ce soir avant de s'endormir. Seigneur, ils vont prendre la Bible, ils vont lire encore verset, ils vont se rappeler comme David a fait, ils vont se rappeler comme Jésus a fait, ils vont se rappeler comme Pierre a parlé, Seigneur. Merci pour cela au nom de Jésus. Amen.